la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour, ne vous laissez pas surprendre aujourd'hui, il y a grève dans les services publics, beaucoup de perturbations, pas ou très peu de transports en commun par exemple. Nous sommes le vendredi 10 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
La Vivaldi s'accorde sur un plan d'accueil pour les réfugiés. 2000 nouvelles places seront créées, mais les places existantes seront aussi libérées plus vite. Le producteur de matériaux de construction, Etex, affiche des résultats records pour la deuxième année consécutive. Mais Bernard Delvaux, le CEO d'Etex, reste confiant pour 2023, vous l'entendrez. La start-up namuroise Sunrise lève 17 millions d'euros pour lancer son dispositif d'analyse du sommeil en France et aux États-Unis. Elle a obtenu l'accord des autorités européennes et américaines. Je suis Laurent Fabry et bienvenue dans le brief.
Le brief, c'est info. Dès 7h.
Le gouvernement fédéral est donc parvenu à un accord sur la politique d'asile. Ça n'était pas une mince affaire, mais il y avait urgence, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour rappel, 2400 demandeurs d'asile restent en attente d'un hébergement que doit légalement leur fournir FEDASIL, c'est-à-dire le fédéral. L'esprit général de l'accord, c'est de réserver les places d'accueil aux migrants faisant l'objet d'une procédure d'asile en cours. Les personnes qui doivent quitter le pays seront donc obligés de coopérer à leur retour. Et puis on chassera aussi les abus de procédure destinés à retarder ce retour inéluctable. Mais une solution sera proposée pour les personnes particulièrement vulnérables. 2000 places supplémentaires structurelles seront créées, en plus des 8000 déjà activées ces derniers mois, et puis 2000 places seront libérées par ailleurs. Bonjour Quentin Joris.
Bonjour Laurent.
Vous signez l'édito du jour et que la Vivaldi parvienne encore à trouver un accord, c'est déjà un événement finalement.
Oui, ça fait un certain temps qu'elle cherche cet accord. Il y a eu plusieurs cairns, donc des conseils des ministres restreints où ils ont discuté. Ici, ils sont parvenus à un résultat. C'est clairement un pas dans la bonne direction, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner. Il n'y a qu'une partie du travail qui a été fait. C'est une première étape. Il faudra continuer, poursuivre cette réforme de la migration. Mais ici, on répond à l'urgence, à la crise de l'accueil. On a un début de solution. C'est une bonne chose, mais bien sûr, il y a encore plein d'autres dossiers qui sont sur la table de la Vivaldi, à laquelle il ne reste qu'un peu plus d'un an avant les prochaines élections. Ici, au mois de mars, elle doit notamment se pencher sur la réforme des pensions. Elle doit aussi parler du nucléaire, sans compter qu'il y a aussi un conclave budgétaire à faire. Donc, les défis sont nombreux. Ce qu'on peut espérer, c'est que maintenant qu'il y a cet accord sur la migration, il y a un peu une dynamique positive au sein de la Vivaldi et qu'elle arrive à boucler d'autres deals sur ces points qui sont importants. Et alors, si on veut être très optimiste, on peut aussi espérer que d'ici un an, on aura enfin une véritable réforme fiscale qui puisse atterrir.
Merci Quentin. Et puis nous resterons sur les mêmes matières. Lundi, je recevrai Caroline Sagesser, politologue du CRISP, pour décrypter l'actualité politique et sociale à la veille d'un ajustement budgétaire qui s'annonce assez crispé. En général, les investisseurs n'aiment pas trop les mouvements à la baisse sur les marchés, mais en voici un qui devrait réjouir les foules. Le prix du gaz naturel sur le marché du TTF, l'indice de référence européen, recule quasi chaque semaine. Il est désormais bien en dessous des 50 euros par mégawattheure. C'est en dessous de son prix au début de la guerre en Ukraine. C'est une sérieuse bulle de l'air, surtout sur les marchés de l'énergie. De petite baisse en petite baisse, le mégawattheure de gaz a perdu 20% en février, a diminué de moitié depuis le début de l'année et de 85% depuis le mois d'août. C'est dire. Baisse de la spéculation, un hiver assez doux et puis des stocks qui sont encore bien remplis en ce début de printemps, tout ça explique ces baisses de prix. Une baisse qui se répercute de plus en plus sur la facture d'énergie des ménages et des entreprises. Elle diminue de 17% en février pour les nouveaux contrats. C'était déjà le cas en 2021, mais Etex a remis ça en 2022. Des résultats records pour la deuxième année consécutive. Ça le fait, comme on dit. Un chiffre d'affaires de plus de 3,7 milliards en hausse de 25% et le résultat net atteint 275 millions en croissance aussi de 3%. L'acquisition d'Ursa en Espagne et d'un producteur de plaques de plâtre en Australie explique la moitié de la croissance du chiffre d'affaires, mais l'autre moitié vient donc quand même de la croissance organique et aussi de l'augmentation des prix. ETEX a en effet pu profiter de son poids sur le marché pour répercuter une partie de ses coûts sur ses prix, mais sans en abuser, comme l'explique Bernard Delvaux, CEO d'ETEX.
Donc effectivement, si on résume les résultats, on arrive à 25% d'augmentation du chiffre d'affaires et 13-14% d'augmentation du cash flow opérationnel. Donc ce sont de très très beaux résultats, mais obtenus dans une année effectivement compliquée. Et quand on regarde d'où viennent ces augmentations, on dirait à peu près la moitié vient de l'acquisition qu'on a réalisée. Et puis effectivement, l'autre moitié, c'est la façon dont on a pu gérer une période extrêmement compliquée dans le premier semestre de 2022, où on a vu tous nos coûts exploser, à commencer par nos coûts d'énergie, et toutes les conséquences en fait de cette augmentation du coût de l'énergie sur les matières premières. Et donc ce qu'on a dû faire, c'est très très vite travailler avec nos clients pour essayer d'obtenir des augmentations de prix, ce qui n'était pas habituel. Ici, on a été amené dans certains cas à revoir les prix 4 fois sur l'année. Mais si vous regardez notre marge en pourcentage, elle est un peu sous pression, elle a un petit peu diminué. Ce qui veut dire qu'en fait, on a récupéré l'augmentation des coûts, mais on n'a clairement pas abusé et on n'a pas pu transférer plus que l'augmentation des coûts à nos clients.
Alors Bernard Delvaux ne promet pas nécessairement aussi bien en 2023, mais enfin, ça devrait aller tout de même.
On est assez quand même optimiste pour 2023. Et la raison est que nous pensons que nous avons des produits qui sont extrêmement bien positionnés et on a des produits qui sont utilisables dans la construction nouvelle. Mais par contre, ce sont aussi des produits qui sont extrêmement utiles dans la rénovation et l'isolation. Et ça, c'est une activité qui n'a jamais été plus urgente et plus importante qu'aujourd'hui. Donc, quand on met en balance la nouvelle construction sous pression et les rénovations dont on espère qu'elles vont compenser pour une bonne part, on est quand même relativement optimiste pour 2023. On espère améliorer notre résultat en chiffre absolu. Et donc, on se prépare à différents scénarios si jamais les choses ne se passent pas selon notre scénario de base, plutôt optimiste.
Bernard Delvaux aurait pu en dire un mot. Le secteur de la construction cherche désespérément de la main-d'œuvre pour répondre à la demande des chantiers. Mais cette pénurie vient de loin parce qu'elle se constate déjà sur les bancs de l'école. Les derniers chiffres disponibles montrent un recul de 16% des élèves inscrits dans ces options dans l'enseignement qualifiant entre 2016 et 2020. Et 6 élèves sur 10 ne terminent pas leur cycle ou changent d'orientation une fois le diplôme en poche. Alors vous cherchez un plafonneur? Eh bien, il faudra s'arracher l'un des 20 élèves sortis de cette filière en 2021. En Flandre, faute d'étudiants, les écoles qualifiantes sont obligées de fermer des sections. Les candidats doivent alors se tourner vers la formation en alternance. Mais là, au moins, ils ont la quasi-certitude de trouver un boulot dans les 6 mois de leur formation. La course à la décarbonation de l'industrie, c'est une course de fond plutôt qu'un sprint, mais c'est maintenant qu'il faut donner les premières fougées pour arriver aux objectifs de zéro émission en 2050. Le cimentier Heidelberg entame le processus, notamment sur son site d'Antoin, et présente une gamme de béton dont le bilan carbone se veut plus réduit. Alors Heidelberg travaille à tous les stades de la fabrication, des combustibles alternatifs utilisés dans les fours, la réduction de la consommation d'eau, les recyclages de certains matériaux et puis le transport aussi. Cela lui permet de réduire son empreinte de près de 60%. Reste alors le processus de cuisson du ciment qui reste terriblement énergivore, mais là le cimentier veut capter le CO2 à la source plutôt que de l'envoyer dans l'atmosphère. Alors, effet de mode ou réelle avancée environnementale, notre journaliste Michel Loers analyse la situation.
Je pense qu'il faut le voir comme une trajectoire vertueuse vers un mieux. Donc aujourd'hui, ils sont à ce niveau-ci, où ils vont jusqu'à moins 60% par rapport à la norme. Ils ont 2050 pour arriver à 0%. Le gros de l'effort qui reste à faire, ce sera la capture de CO2. Et donc là, ils sont bien conscients aussi qu'il va falloir créer une chaîne complète capture, stockage et enfouissement CO2. Et ils ont déjà commencé l'étude de recherche de partenaires pour construire cette chaîne, avec a priori le projet de viser un enfouissement CO2 sous la mer du Nord. Mais donc c'est une trajectoire vers un mieux, je pense qu'il faut le voir comme ça. En tant que leader de marché, ils montrent la voie aux autres, ce qui est aussi, à mon avis, leur rôle. Maintenant, évidemment, on n'y est pas encore, ça c'est clair.
Alors l'apnée du sommeil, on vous en a déjà parlé en début de semaine avec les progrès très encourageants de Nyxoah aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule PME wallonne à viser le marché américain dans le secteur. Basée à Namur, Sunrise a conçu un dispositif qui permet de détecter certains troubles du sommeil comme l'apnée qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. La start-up vient de franchir un pas important. Elle a obtenu l'aval des autorités médicales européennes et américaines. Le dispositif pourra donc être remboursé par les mutuelles ou les assurances. Sunrise vient aussi de lever 17 millions d'euros pour poursuivre son développement aux États-Unis, mais aussi en France, mais pas en Belgique, parce que le système de santé belge ne reconnaît pas la validité d'un test du sommeil s'il n'est pas fait en milieu hospitalier. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays. La faillite de FTX continue de faire des dommages collatéraux. Dans la foulée de la chute de la plateforme de crypto-monnaie en novembre dernier, c'est la petite banque américaine Silver Square qui fait la culbute. Petite banque californienne au départ, mais elle surfe très vite sur la vague des cryptos en acceptant des dépôts en monnaie virtuelle dès 2013, au contraire des grandes institutions. En septembre dernier, Silver Square avait attiré près de 12 milliards de dépôts en crypto. Mais la banque a été obligée de suspendre son réseau d'échange de monnaie virtuelle vendredi et surtout elle a dû vendre des actifs à perte pour faire face à la fuite massive de ses clients. Des actifs dont la valeur globale ne dépassait plus les 4 milliards de dollars. Silver Square n'avait donc plus d'autre solution que de se mettre en liquidation volontaire. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin et cela nous fait évidemment très plaisir. Si le brief vous plaît, n'hésitez pas encore à le faire savoir autour de vous. Je vous retrouverai lundi avec mon invité Caroline Sagesser de CRISP. Bonne journée et déjà bon week-end.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution. Plus d'évolution de votre capital. Plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.